Maghreb, Juliette Rangeval.
Abdelkader, un homme et mille vies, mille facettes, chef de guerre, résistant, homme d'État, chef spirituel, mystique et saint, figure populaire, grand intellectuel, adversaire de la France, amoureux de la France. Abdelkader est à la fois complètement, intimement algérien et l'homme du rapprochement entre l'Orient et l'Occident à l'heure où ce rapprochement paraît si difficile au sommet de l'État, du côté de Paris comme du côté d'Alger. Bonjour Karima Berger.
Bonjour.
Vous publiez ces jours-ci Abdelkader, l'Arabe des Lumières, chez Albin Michel, le récit d'une initiation.
كان يطمح أن يكون عالما لكن الحوادث حطمت طموحه وأحلامه فاهتم باكرا بعتق بلاده من الاحتلال التركي.
C'est un parcours exceptionnel hein, pour un homme musulman de son temps. On peut peut-être rappeler, revenir sur les moments essentiels de la vie de l'émir.
Oui, donc il est né en 1808 dans une confrérie, la Qadiriyya, donc du nom du fondateur Abdelkader al-Jilani. Et il naît dans cette confrérie qui est riche de son savoir, qui est riche de ses lumières, qui est riche de la transmission du Coran, des hadiths, de la science islamique, du savoir tout court, de la connaissance. Et donc il est entouré par sa mère, Lala Zahra, qui est quand même une femme. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en 1808, en Algérie, une femme était lettrée et lui a appris le Coran ? Comme d'ailleurs sa première femme sera aussi une femme lettrée, on a du mal à imaginer que dans les campagnes d'Algérie, à ce moment-là, il y ait un tel niveau d'éducation et de civilisation. Une autre civilisation, mais une civilisation. Il développe très vite des dons, il a une aura naturelle, il adore monter à cheval. Bon, on n'adore que Dieu, mais le cheval est pour lui le buveur de vent. Et il développe avec cette bête, avec cet animal, il développe le sens de la maîtrise. C'est-à-dire que pour lui, le cheval, qu'il appelle le buveur de vent, quand il galope, il dit que le cavalier, c'est le corps, et le cheval, c'est son âme. C'est ça le jihad. Donc il a cette première instrumentalisation du cheval comme expérience intime, personnelle, spirituelle, de qu'est-ce que c'est que conduire son âme, qu'est-ce que c'est que la purifier. À 24 ans, il est désigné par son père comme devant être l'émir des croyants et de prendre la tête du combat, du jihad.
Face aux Français.
Face aux Français, on est en 1832. Juillet 1830, c'est l'invasion de l'Algérie par la France. Et deux ans après, on lui demande de prendre la tête du combat. Il refuse. Il dit, mais moi, je suis un homme de prière, un homme de méditation. Ce n'est pas mon affaire, la guerre. En tout cas, la guerre des armes. Il s'y soumet. C'est un premier renoncement à sa vie de méditation et de prière et de science et de savoir. Parce que déjà, à 23 ans, il avait déjà un embryon de bibliothèque, celui de ses parents.
Il était déjà allé une fois à la Mecque.
À 19 ans, il fait le premier pèlerinage avec son père et son père le désigne alors qu'il a trois frères avant lui. Mais le père a déjà compris que ce fils-là avait des dons particulier. Et il l'emmène à la Mecque et le pèlerinage, c'était pas y aller pour deux semaines, juste Paris-La Mecque ou Alger-La Mecque et revenir. Ça durait deux ans. C'était des caravanes qui allaient à pied, à chameau, bien sûr. Et c'était l'objectif de rencontrer tous les grands maîtres, donc en Tunisie, à la Zeytouna, en Égypte, à Bagdad, sur le tombeau du fondateur Abdelkader el-Jilani, dont il a le même prénom. En Égypte, en Syrie. Donc c'est aussi un bain, une immersion culturelle. Et c'est là aussi, peut-être, Abdelkader, pour la première fois, voit à la Mecque et à Médine, voit tous ces pèlerins et il comprend l'immensité de l'islam. Il voit tous les peuples, les Indonésiens, les Malaisiens, les Chinois, les Syriens. Et donc ça lui donne tout de suite une dimension mondiale, une dimension peut-être universelle.
Oh. prend la tête du combat contre les Français en 1832 à l'âge de 24 ans, alors qu'il n'est pas prêt à ça et que c'est un premier renoncement.
C'est un premier renoncement. Il dit « J'ai pris les armes, mais j'étais guerrier et je n'aurais jamais dû l'être ». Donc à la fois, il prend le combat contre l'envahisseur colonial, mais il est aussi celui qui va fonder le premier embryon d'État algérien. C'est-à-dire, il est homme d'État, chef d'État. Et ce que j'aime beaucoup dans cet itinéraire, c'est qu'il n'est pas choisi parce qu'il est le plus valeureux au combat, dans les batailles, dans les jeux. C'est pas le plus fort, mais c'est le plus méditant, c'est le plus spirituel. Donc, prendre le risque de faire mener le combat par un jeune homme de 24 ans qui est très versé dans la prière... On ne peut pas l'entendre aujourd'hui, c'est inaudible pour nous, puisqu'aujourd'hui, prendre la tête d'un combat, c'est forcément avoir des qualités guerrières.
Il a en plus, en face de lui, des Français qui vont mener une guerre particulièrement cruelle, avec des exactions terribles, et il va finalement devoir renoncer, c'est la reddition.
C'est ça, c'est ça.
Avec un mensonge français.
Oui, oui, une trahison. Pendant 15 ans, il lutte et deux, il crée un État. C'est pour ça que l'Algérie, dans sa fondation de son État, s'est tellement adossée sur lui. C'est tout à fait légitime de sa part. Il crée le règlement du traitement des prisonniers, il crée des tribunaux, il lutte un peu contre les mœurs de l'aristocratie religieuse et confrérique de l'époque, donc sur le plan anthropologique, il introduit plus de justice, il crée une véritable armée qu'il va rémunérer, il va interdire les conversions, il va interdire de tuer les soldats blessés, il crée déjà un ordre moral qui va impressionner les Français. Et au bout de 15 ans, il se rend compte qu'il ne peut pas aller plus loin, qu'il a réuni les tribus, donc une première unité algérienne. Je rappelle qu'à cette époque-là, l'unité allemande ou l'unité italienne n'existait pas encore. Donc, il fait œuvre d'unité, ce qui est énorme parce que à cette époque-là, chaque tribu, c'est sa chapelle et donc il n'est pas question de dépendre d'un autre. Donc, se soumettre à Abdelkader, c'était quelque chose. Donc, l'adhésion des tribus va être fluctuante selon les années, selon la force des Français qui vont aller chercher les tribus et se les aliéner. Et au bout de 15 ans, il y a quelque chose qui est vraiment proche du péril majeur pour son peuple, et il rend les armes. Il ne rend pas les armes de façon passive et de façon lâche. C'est une reddition qui est pour moi un des actes les plus virils qui soit. Il négocie, c'est-à-dire il n'est pas question de juste déposer les armes, il négocie sa reddition, c'est-à-dire « je voudrais que vous m'exiliez en Syrie, à Damas, auprès de mon maître Ibn Arabi, qui est donc son maître intérieur, puisqu'il ne le connaît pas, sinon par son écrit et son aura lumineuse en islam. » Donc il négocie et quelque chose qui est très beau et qui est symboliquement très fort, quand il signe son traité de reddition, parce qu'il demande un écrit, il a compris que les Français, il fallait pas trop compter sur leurs paroles, il pleut des cordes et l'encre sur le traité n'arrive pas à sécher. L'encre savait déjà que l'écriture allait être trahie. Donc il signe, ils prennent le bateau, tous, ils sont persuadés d'aller à Saint-Jean-d'Acre, qui est le premier port ou Alexandrie, pour ensuite aller à Damas. Et en fait, ils arrivent à Toulon, au fort Lamargue, et ils sont aussitôt emprisonnés dans des conditions absolument désastreuses, qui sont une honte pour la République qui va naître 4 mois après début 48.
Pendant ces années d'emprisonnement en France, Abdelkader va malgré tout s'intéresser de plus près à la pensée occidentale. Ça va du canal de Suez jusqu'à la franc-maçonnerie. C'est le signe d'une extraordinaire modernité.
Absolument, c'est un voyant. On a le voyant Rimbaud, mais on a le voyant Abdelkader, c'est-à-dire qu'il a à la fois sa curiosité, son intérêt. Pour lui, le moteur, c'est sa spiritualité, c'est sa foi qui fait qu'il va s'intéresser à l'autre. Puisque la diversité des peuples, la diversité des nations, la diversité des religions, toute cette multiplicité n'est que la manifestation de l'unité divine. Dieu, personne ne peut l'enfermer, personne ne peut l'enserrer, ne peut le ceinturer, comme il dit. Il est infinie dans la multiplicité de ses manifestations.
Après sa libération, il est envoyé à Damas. C'est là qu'il écrira le livre des Haltes, ouvrage essentiel pour comprendre sa pensée. Lui qui voulait reposer en Syrie aux côtés d'Ibn Arabi, mais il devient au fil du temps le symbole de la résistance pour la jeune nation algérienne et ses cendres sont rapatriées en Algérie en
1967. الأمير عبد القادر بن محي الدين الجزائري إلى جزائره الحبيبة إليه.
Ce que vous racontez à travers ce livre et à travers votre relation très personnelle avec Abdelkader, c'est pourquoi, c'est parce que vous trouvez que côté algérien comme côté français, on reste dans une image très figée, le résistant d'un côté, l'adversaire de la France de l'autre. C'est aussi pour ça que vous avez voulu écrire ce livre.
Oui, vraiment, il fascine, mais on ne sait pas grand-chose de lui. C'est comme un personnage de roman, on sait la Smala...
On va s'arrêter un instant sur la Smala, si
oui,
vous voulez bien.
Oui, je veux bien.
Parce qu'en France, c'est un mot qui est connoté de façon très péjorative. Et vous écrivez plusieurs pages sur cette Smala d'Abdelkader, qui est en fait une invention digne de Jules Verne, dites-vous.
Oui, 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 Jules Verne aurait pu l'inventer. Parce qu'au début, il avait sa capitale, puis il crée un état. Il va dans les ruines de Tagdamt, qui est une ville du 9e siècle, et il va la refonder. La première chose qu'il crée, c'est une université, une bibliothèque. Enfin, le livre, pour lui, a une dimension majeure, primordiale. Et bon, elle va être prise par Bugeaud. Il va la brûler avant que Bugeaud n'arrive. Et ensuite, il crée sa Smala et il dit « je vais créer une capitale volante ». Ça va pas être une capitale à l'image des Français. Je vais aller et venir, je vais être souple, je vais être fluide. La France a des équipements, dit-il, des équipements très lourds. Ils ont des chevaux très lourds, ils ont des cuisines. Donc vraiment, l'armée de Bugeaud, pour lui, c'est un espèce de monstre. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est la fluidité d'aller de vallée en vallée, de col en col. Et Bugeaud dit de lui qu'il est insaisissable. Donc c'est une sorte de guérilla. La Smala, là, c'est une capitale volante, une capitale qui pouvait atteindre 30 000 âmes et qui pouvait aller jusqu'à 60 000 âmes selon l'adhésion des tribus en Algérie. Et donc c'est une véritable ville avec ses mosquées, avec ses marchés, ses forgerons, ses ateliers de menuiserie, sa famille, ses écoles pour les enfants, enfin une vraie ville et qui avait une dimension mystique pour lui parce que son organisation c'était pas juste un tas de tentes faites n'importe comment. Non, lui il est le centre parce qu'il est le seigneur. Alors il y a deux triangles hein, quand on dessine la Smala, il y a le triangle qui est l'angle temporel et le triangle spirituel qui relève du Seigneur, de Dieu, du divin. Et les deux triangles s'entremêlent, ça veut dire que jamais on ne sépare les deux. Et toutes les tribus ensuite s'ordonnent autour de lui, alors des plus proches, bien sûr, jusqu'aux plus éloignés. Les Français sont éblouis par le dessin de la Smala.
Ils ne vont pas s'y tromper dans le sens où la prise de la Smala, c'est un immense tableau qu'on peut voir encore aujourd'hui. Ça a donc beaucoup, beaucoup travaillé l'imaginaire français. Et après la reddition d'Abdelkader, on a gardé la tente, on a gardé son sabre, on a gardé son burnous.
C'est le livre.
Aujourd'hui encore, les négociations pour la restitution des biens de l'émir, comme demandé par l'Algérie, patinent sérieusement.
Oui, et ils patinent gravement et douloureusement pour la mémoire de l'émir. C'est un homme qui est sorti d'Algérie. Tous ses biens ont été pris, ont été volés. Le duc d'Aumale l'appelle plusieurs reprises, vous l'avez vu, le voleur de livres, enfin, vraiment. Et tout le monde fantasmait sur le trésor, oh, le trésor de l'émir, des bijoux, etc. Mais pas du tout. Le trésor de l'émir, c'était des livres. Et à l'époque, l'imprimerie n'existait pas. Donc c'était des livres copiés à la main, magnifiques, que l'on peut retrouver dans la collection du duc d'Aumale à Versailles. Et ces livres ont été bradés. Et ensuite, donc, la somme a été gérée par les Français à Damas, ensuite, ou même en France. Quand ils devaient faire une dépense, ils devaient la justifier. Donc, c'est une humiliation sur humiliation. Lui qui était généreux sans compter. Sur ses biens, c'est vraiment une grave erreur. Parce qu'on les garde ici, pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire de les garder ? Personne ne s'interroge. On dit qu'ils ne veulent pas les rendre, mais on ne demande pas pourquoi on veut les garder ici. C'est signe de quoi ? Ça va, il y a des tableaux. Les peintres ont peint Abdelkader, il y a des tableaux. L'Algérie ne demande pas la restitution des tableaux. Rimbaud a fait un poème magnifique sur Abdelkader, hein, c'était le premier. Mais les choses qui ont appartenu à l'émir Abdelkader et qui ont appartenu à l'Algérie, c'était les œuvres de la fondation d'une nation. Et c'est là où l'Algérie est en droit de les demander, parce que ce sont les racines de sa fondation. Et c'est dommage, je trouve que c'est une grave erreur de ne pas les rendre. C'est pour l'exotisme, c'est pour que les gens aillent visiter la tente de l'émir et de dire « waouh, on s'est battu quand même, comme il était beau, comme il était fort ». L'émir n'était pas dupe, il disait « c'est quand même aussi sans forfanterie, c'est quand même grâce à moi que certains officiers sont devenus généraux ». Donc quoi, c'est pour juste s'auto-satisfaire ?
Et côté algérien ?
Tocqueville avait écrit sur l'Algérie, hein, de l'Algérie, et Tocqueville lui-même, le grand défenseur de la démocratie, n'est-ce pas ? Mais il ne la conçoit pas pour l'Algérie. Il dit que ça n'est pas possible pour des peuples barbares. Après la décennie noire, après l'enfer qu'a vécu le peuple algérien, ce n'est que maintenant que l'on commence à s'intéresser à la dimension spirituelle de l'émir Abdelkader, qui est une magnifique nouvelle, une très grande nouvelle pour moi. Il y a eu un colloque récemment sur la dimension spirituelle de l'émir. J'ai jamais entendu autant parler de soufisme, de mysticisme. Les Algériens ne connaissaient pas le livre des Haltes. Le livre des Haltes n'est pas enseigné.
Ce que vous racontez à travers ce livre et à travers votre relation très personnelle avec Abdelkader, c'est pourquoi ? C'est parce que vous trouvez que côté algérien comme côté français, on reste dans une image très figée, le résistant d'un côté, l'adversaire de la France de l'autre. C'est aussi pour ça que vous avez voulu écrire ce livre ?
Oui, il n'utilisait pas le terme d'identité. C'était pas un mot jamais identitaire dans sa lettre aux Français, qui est un très très beau livre qu'il adresse aux Français pour dire quelle est sa culture. Il ne défend rien, il ne défend pas l'islam, ni les musulmans, il dit simplement quelle est sa culture. Il dit, et il rappelle aux Français simplement de se rendre proche de leur propre religion. Et Abdelkader, il dit, le monde est ceci et il est cela, Dieu est ceci et il est cela. Il n'est pas du tout, on a parlé de modernité tout à l'heure, dans la division des savoirs, comme la modernité l'a fait et a mutilé un peu la connaissance du monde, où le ciel a été rabattu sur la terre, il y a les savoirs de la science, les savoirs de la technique, les savoirs de la médecine, les savoirs de la philosophie, etc., etc. Et lui, c'est un tout, tout est un. Et donc l'Algérie et la France sont les deux faces d'un même être au monde, si je puis dire. Disons que je suis, sur le plan personnel, peut-être plus sensible à cet aspect-là de la dualité, parce que je suis née dans l'Algérie coloniale, que j'ai grandi dans l'Algérie indépendante et que je suis en France depuis plusieurs années maintenant et que je suis une femme des deux mondes. Mon premier livre s'appelait « L'enfant des deux mondes ». Mon nom porte les deux mondes parce que je veux les porter et que c'est ça qui est fécond. Il ne s'agit pas de revenir vers l'ancien, il s'agit de relire l'ancien à la lumière du monde nouveau, qui est le monde nouveau n'étant pas celui de la France, il est celui de la marche du monde.
Merci beaucoup Karima Perger.
Merci beaucoup.
Je rappelle le titre de votre livre, Abdelkader, l'Arabe des Lumières, c'est publié chez Albin Michel. Et c'est Kunsi Erguner qui nous a accompagnés tout au long de cette émission Carrefour du Maghreb, à la réalisation Françoise Grelot.